This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Les meufs, ça y est, mon livre est sorti. Pouf! Je suis aussi stressée que excitée. Ce livre, vraiment, je l'ai écrit d'une traite. C'était une évidence. J'y ai mis tout ce que j'aurais voulu lire quand j'étais enceinte. Les clés pour comprendre pourquoi on accouche de cette manière aujourd'hui. Pourquoi on peut ressentir un malaise quand on est enceinte face aux injonctions et ce qu'on perçoit au fond de nous. J'y ai mis les chiffres pour naviguer aussi face aux dangers brandis par le système médical. Et ce, pour comprendre de quoi on parle et des réelles probabilités auxquelles on a affaire. J'y ai mis les liens vers les études aussi, pour pouvoir comprendre par soi-même. Et surtout, des propositions pour modifier ces schémas de pensée. Réfléchir différemment. Réfléchir ensemble aux questions de responsabilité, de santé physique, mais aussi mentale, émotionnelle, relationnelle, et plein d'autres choses. Et puis j'y ai mis plein de ressources aussi, pour se préparer au mieux, mentalement. Il coûte 9,90€. Allez le commander chez votre libraire pour qu'il l'ait en stock et dites-lui s'il vous a plu pour l'inciter à le recommander à d'autres personnes ensuite. Vous aussi, vous avez un rôle à jouer dans le changement de point de vue sur les accouchements. C'est votre histoire, mais c'est aussi la nôtre, à nous toutes qui donnons naissance, ou pas d'ailleurs. Retrouver le pouvoir d'enfanter, c'est le titre de ce livre et il n'attend que vous. Bonne lecture et bon épisode.
Donc Jenny, toi t'as deux enfants?
C'est ça, exactement.
Ok, quel âge a ton grand?
Alors mon grand a 8 ans.
Ok.
Et le petit, enfin 8 ans et demi, et le petit a 18 mois.
Ok, cool. Est-ce que tu veux me raconter un peu, donc on va... Oh. Et donc j'ai toujours pas récupéré ma voix et je suis encore fatiguée de cette espèce d'angine chelou là. Donc j'ai les idées un peu dans le brouillard. Mais je vais essayer de construire ma pensée, ça va bien se passer.
Oui.
Donc, toi, t'avais quoi comme idée de la maternité et puis de l'accouchement quand t'étais jeune, quand t'avais pas encore d'enfant?
Ouais, c'est assez intéressant. De la maternité, j'avais quand même... moi, je viens d'une grande famille. Donc, en fait, on est 5 frères et sœurs. Du coup, j'avais vu ma mère s'occuper d'enfants, tout ça. C'était pas étranger pour moi. Et puis, j'ai été prof des écoles pendant une dizaine d'années, en fait. Donc, les enfants, c'était pas non plus étranger ouais. Pour moi du tout, quoi. J'avais fait des études, enfin, j'ai un master d'éducation et tout. Donc, voilà. Du coup, la psychologie de l'enfant, leur développement, etc., il n'y avait pas de hic particulier. Mais bon, enfin, c'est quand même très différent quand c'est le tien.
Ouais.
comme on se... Mais c'était pas étranger, en fait, tu vois. Par contre, l'accouchement, alors là, c'était complètement, pour moi, c'était le truc, tu vas à l'hôpital, ils t'aident à avoir ton bébé, clac-clac, tu reviens, cool, quoi. Enfin, tu vois, voilà, c'était vraiment la vision, bah, de la société, mais complètement, mainstream, totalement, bateau, bateau.
Ouais, parce que toi, ta mère, elle a eu ses 5 enfants à l'hôpital. Oui, ses 5 enfants à l'hôpital, et voilà quoi.
Enfin, en
Ils
fait, le
viennent.
dernier est adopté, donc 4, mais oui, elle
Okay.
a eu 4 enfants à l'hôpital. Et pour le dernier, il se trouvait qu'elle n'a pas pu avoir la péridurale parce qu'elle avait de la fièvre et tout ça. Mais elle a quand même dit que c'était son accouchement le plus chouette. Donc voilà, tu vois, c'est marrant.
Comme
Mais
quoi.
les autres, même s'ils étaient archi-médicalisés, elle les a super bien vécus, enfin, pas de problème et tout. Donc ouais, c'était un peu mon image. Et puis même autour de moi, tu vois, j'avais pas de copine qui avait accouché sans péri. Enfin, tu vois, j'avais vraiment. Que des gens qui avaient accouché de façon totalement bah, classique, on va
Comme
dire.
tout le
Classique.
monde, quoi.
Comme tout le monde maintenant, quoi. Exactement. Donc, image totalement classique de l'accouchement à l'hôpital, on y va. Et puis même, j'étais genre méga naïf, tu vois, en mode, ah ouais, mais les médecins, ils vont m'aider, ça va être trop bien et tout. Enfin, tu vois, vraiment le truc.
Ah ouais, non mais bien sûr.
C'est ça, tu vois. Donc voilà, ouais, c'était ça au début, ma vision du truc.
Ok, et donc tu tombes enceinte de ton premier.
De mon premier exactement.
Et donc tu te dis quoi? Tu te dis que
Et
tu
ben
vas
je me
accoucher comme ça,
dis
tu cherches ta maternité.
exactement, je cherche ma maternité, je regarde un peu les critiques, voilà, pas trop mal, enfin voilà, je cherche ma maternité pas trop loin de chez moi et tout. Et puis je fais un suivi hyper classique en maternité en fait, donc tout le temps, enfin tous les mois des autres gens, vraiment pas de personnalisé, enfin. Le truc, je te dis, le truc vraiment, mais bateau, bateau, quoi. Et bah du coup, voilà, j'ai fait, non, j'ai fait tout mon suivi comme ça, hyper classique. Grossesse qui se passe super bien, par contre, nickel. Pas de problème de santé, rien du tout. Tout va bien, bébé va bien. Vraiment, j'ai eu zéro problème.
Trop
Et
bien.
puis, arrive l'accouchement. Ben, donc, en fait, j'ai perdu les os avant. Du coup, bah évidemment, je savais pas, donc je me suis précipitée à la maternité en pensant qu'ils allaient m'aider et tout. Et là, c'est un peu la douche froide en mode, ah ben non, on vous met dans une chambre et si dans 48 heures ça n'a pas bougé, on vous déclenche. Ok, donc je fais quoi là? J'aurais mieux fait de rester chez moi, moi.
Ben, c'est clair.
Mais bon, quand on sait pas, on sait pas quoi.
Non.
Et du coup, bah j'ai eu de la chance parce qu'ils n'ont pas eu besoin de me déclencher. Ça s'est déclenché tout seul après un petit temps. Je sais plus exactement, mais peut-être quand même 6-7 heures, c'était pas hyper rapide. Et puis du coup, bah, le travail se lance, machin, yaya. Et puis comme tout à fait classique, on me met dans une salle de travail, on m'oublie un peu, il n'y a personne, enfin, tu vois, à l'hôpital en France de nos jours, quoi. Et puis du coup, après, bah, ça progresse bien, tu vois, les contractions sont de plus en plus fortes. Ils m'ont même mis dans un bain, tu vois. Donc, c'était pas genre un truc, enfin, c'était un hôpital quand même assez, je
Ouais.
pense. Et puis du coup, à un moment donné, il y a une nana qui arrive faire un monito et puis m'examiner et tout. Puis elle me dit, ah, ça avance vachement bien, mais bon, c'est vrai que sur les échographies, c'est quand même un gros bébé. Donc voilà, puis c'est un premier, donc ça va quand même vous faire plus mal et tout. Si vous voulez la péridurale, il faut peut-être vous décider maintenant et tout ça. Du coup, bah moi, je douillais quand même déjà pas mal. Donc j'ai eu peur, quoi, comme.
Bien sûr. Bah, c'est flippant.
Bah, devant un discours comme ça,
Bien sûr.
devant. Puis bon, mon mari qui connaissait rien non plus, enfin vraiment, on était tous les deux. Du coup, bah, je dis, elle a sûrement les meilleurs conseils, quoi. Donc je dis, ok,
Bien sûr.
ouais, pas de problème, ok, d'accord, envoie l'anesthésiste, vas-y. Et du coup, bah, l'anesthésiste arrive en se faisant quand même désirer. Je trouve qu'ils se font pas mal désirer, hein, quand même. Mais
Ouais.
bon.
Ouais, soit ils se font désirer, soit ils sont derrière la porte à attendre et à toquer toutes les 5 minutes. C'est
Ouais,
le premier.
voilà. Et puis bon, comme elle avait un peu cassé ma bulle, du coup, j'ai commencé à douiller plus, quoi. Parce que en fait, quand j'étais dans ma baignoire, et là, ils m'ont sorti, ils m'ont examiné, machin, donc ça a fait un truc un peu, voilà. Du coup, l'anesthésiste arrive, elle commence à me faire la péridurale, elle dit, et j'ai ce souvenir-là, elle est dans mon dos, elle dit, ah, ça va pas. Bon, sur le coup, je n'en ai rien pensé. Je sais pas, elle doit repiquer, je sais pas. Et puis là, ça va sur le coup. Donc après, j'ai eu la péridurale. Voilà, j'étais donc immobile, allongée, etc., etc. Et puis Après, il vient le moment de pousser, je ne sens rien, pousser sur le dos, j'étais super mal, je leur ai demandé de me tourner sur le côté, ils ont dit, ah non, c'est pas possible, on est désolés et tout. Super, j'ai jamais eu d'abus, tu vois, enfin, j'ai eu toujours des gens hyper gentils, tu vois, pas des gens horribles, agressifs, jamais. Mais toujours, ah non, on est désolé, ah c'est pas possible, ah ça va pas être possible. Donc j'étais super mal, bref. Et donc comme j'étais super mal, ça ne descendait pas sûrement, je poussais pas bien ou j'en sais rien, je chantais rien en plus. Du coup, ils ont dit, ah non, mais là ça va pas, on va appeler le médecin et tout. Du coup, il y a une médecin qui arrive avec des gros forceps comme ça, tu vois. Elle se présente même pas, elle arrive, elle fait, bon, je vais vous aider. Et là, je fais, ah, panique à bord, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Elle me dit non, mais ça va pas vous faire mal, vous inquiétez pas, hein, vous poussez comme d'habitude et tout. Donc, mon premier est né avec des forceps et tout ça. Je me rappelle qu'ils me l'ont sorti, il était vraiment très bleu et du coup, ils l'ont emmené tout de suite en fait. Donc, je l'ai même pas eu sur moi et tout ça, je l'ai vu 30 secondes et puis ils l'ont emmené tout de suite et c'était très très long. J'ai le souvenir d'avoir regardé cette pendule en mode, mais quand est-ce qu'ils vont me le ramener? Je pourrais être là, dessiner la pendule de la salle d'accouchement. Vraiment. Du coup, ils me l'ont ramené à... enfin, et pendant ce temps-là, elle était en train de recoudre l'épisio qu'elle m'avait fait sans m'avoir demandé mon consentement, ni m'en informer sur le coup. Hein, en étant en... Quand elle était en train de me recoudre, je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites? Elle me dit, oh, bah, je vous recouds un peu. Bon, ok. Sauf que tu as découpé, mais tu l'as pas dit, quoi. Et du coup, bah, ils m'ont ramené mon bébé, machin, il était tout habillé. Enfin, bon, ça, on avait eu une coupure, tu vois, mais bon, c'était quand même magique, c'était mon premier bébé et tout ça. Puis de toute façon, sur le coup, je pensais que c'était comme ça, en fait, la naissance. Du coup, j'en ai. Enfin, tu vois, c'est ça qui est ouf, c'est que sur le coup, on est formaté comme ça. Du coup, moi, je me suis dit, ouais, c'est normal, quoi.
Ouais, on voit pas le
Et
problème.
donc, pendant le séjour à la maternité, le cauchemar, le premier lever, en fait. J'essaye de me lever et là j'ai comme une batte de baseball qui m'écrase l'arrière du crâne et je m'évanouis par terre en fait en vomissant et tout. Et donc ils me relèvent et tout ça, ils me recouchent et tout. Et là je leur dis mais en fait je peux pas être droite sans avoir une espèce de la tête qui explose quoi. Et ils me disent non mais c'est bon, c'est rien, c'est la douleur, c'est la fatigue de l'accouchement, vous inquiétez pas, on va vous donner des antidouleurs et tout.
Wow,
Donc
c'est la fatigue de l'accouchement. Je peux pas me lever sans. Non, mais.
Ouais. Ils m'ont dit, ah, mais bon, non, mais ça doit se. Ouais, vous devez être migraineuse et tout. Non, non, je leur ai assuré que non et tout ça. Et là, par contre, ensuite, de coup, j'ai eu des gens vraiment, vraiment désagréables et horribles qui ne prenaient pas du tout en compte ma douleur. Je savais qu'il y avait un truc pas normal. J'avais jamais eu de maux de tête de ma vie. Et là, d'un seul coup, je me lève et j'ai des. C'est impossible de me lever et de m'occuper de mon bébé sans avoir des espèces de. Enfin, un truc qui t'écrase le cerveau, quoi. Donc, en fait, je supplie, j'ai des antidouleurs, des tas de trucs, on me dit non, non, on minimise vachement. Et puis, le deuxième ou le troisième jour, il y a mon mari qui tape du poing sur la table en mode non, mais vous nous appelez un médecin, elle est vraiment pas bien, c'est pas normal et tout ça. Donc là, on a un autre anesthésiste, un gars, qui arrive et qui regarde mon dossier, parce que les autres n'avaient même pas sûrement essayé d'ouvrir mon dossier, et qui me dit ah ben en fait, on est désolé, vous avez une brèche de Durmer. Et en fait, du coup, je demande ce que c'est, et il me dit que donc la personne qui m'a fait la péridurale a piqué trop loin, et au lieu de piquer dans l'espace péridural, a piqué dans la Durmer. Et donc en fait c'est là où circule le liquide. Enfin pour les gens qui connaissent pas, c'est là où circule le liquide céphalo-rachidien. Donc c'est un normalement un circuit fermé qui va de la colonne vertébrale au cerveau et c'est le liquide qui baigne ton cerveau en fait. Donc du coup d'avoir un trou là-dedans, bah ça fait pas du bien forcément. Et c'est ça qui cause les maux de tête quand tu es en position debout ou assis. Et ça te cause en fait d'avoir plus autant de liquide qu'il faut dans ton cerveau, enfin autour de ton cerveau, et donc des douleurs insupportables forcément. Du coup, 3 jours après l'accouchement, j'apprends qu'il faut que je repasse au bloc pour réparer leur connerie, quoi. Donc ça, c'était vraiment la douche froide. Enfin, j'ai pleuré, c'était vraiment horrible. Et voilà, la procédure est horrible aussi, donc il faut faire un blood patch, c'est-à-dire ils te prennent du sang dans tes deux bras et ils te le remettent à l'endroit où ils ont fait la péridurale pour faire une espèce de croûte à l'intérieur pour cicatriser le trou, en fait. Voilà. Donc après ça, je pouvais quasiment plus marcher. J'avais des douleurs de dos horribles. Ils m'ont laissé rentrer. Je marchais comme une petite vieille. Enfin bon, c'était affreux. Du coup, je pouvais pas m'occuper de mon bébé. Ça a foiré mon allaitement. Enfin bon, c'était vraiment des moments horribles, horribles, horribles. Et tout ça à cause de la péridurale, quoi.
Bien
Et
sûr.
donc après coup, j'ai eu pendant 3 ans environ des séquelles de ça avec des douleurs de dos, des douleurs de nerfs, des douleurs dans la tête, partout. Et on me disait toujours non, non, mais ça n'a rien à voir. Enfin, j'ai consulté des tonnes de spécialistes, des tonnes de médecins, etc. On me disait non, mais ça n'a rien à voir. Ah, bah, vous êtes déprimé, on va vous donner des antidépresseurs. Non, mais en fait, je suis déprimée parce que j'ai mal, mon gars. Tu vois, c'est pas dans l'autre sens. C'est pas je suis déprimée, donc ça me donne des douleurs. Non. Donc vraiment, en fait, il t'abîme et après, tu es dans une errance médicale où on ne te croit pas. J'ai fait des tonnes d'examens, etc. Évidemment, j'ai rien. Enfin, sur les IRM et les machins et les trucs, il n'y a rien, forcément. C'est des trucs de nerfs, etc., qui ne se voient pas. Des névralgies et tout. Et du coup, jusqu'à un moment où je rencontre un anesthésiste, j'ai été reconsulter un anesthésiste neurologue. Et le gars m'a dit que j'avais eu quand même de la chance parce qu'il y a des gens qui restent paralysés avec ce genre de truc et ou qui ont des séquelles à vie et tout. Donc il a été honnête que c'était effectivement la péridurale et que c'était pas une blague et que c'était pas dans enfin que c'était dans ma tête, etc. J'ai pas voulu refaire une autre intervention, mais je pense que mon corps s'est guéri petit à petit tout seul. J'ai aussi changé de vie et eu moins de stress, changé de Enfin, fait beaucoup de méditation, etc. Et à un moment donné, je pense que le corps se guérit tout seul. Et là, ça va beaucoup mieux, évidemment. Et donc, au début, forcément, j'étais complètement fermée à avoir un autre enfant, forcément, avec tout ça. Je me suis dit, non, mais un, c'est bien, pas de problème et tout. Et puis, en fait, j'avais complètement bloqué le trauma parce que enfin, j'avais pas du tout réalisé le truc. Pour moi, dans ma tête, il y a eu longtemps que, enfin, j'ai pensé pendant longtemps que la médicalisation m'a sauvée et que j'avais eu vraiment une couille avec la péridurale, mais que c'était pas de chance, quoi, en fait. Vraiment, c'était vraiment. Et à un moment donné, il y a quand même un truc qui tiltait pas dans ma tête. C'était. Oula! Attention, Joseph. Il y a quand même un truc qui tiltait pas dans ma tête. C'était comment j'ai pu avoir une grossesse en très bonne santé avec un bébé qui était en santé nickel et j'avais aucun problème de santé et comment mon accouchement s'est transformé en fiasco comme ça quoi genre tu vois ça matchait pas en fait il y avait quelque chose qui matchait pas du coup bah, j'ai demandé mon dossier médical auprès de l'hôpital je me suis informée et tout et après au début j'en ai arrivé à la conclusion que c'était tellement horrible que si j'avais un deuxième enfant je voudrais faire une césarienne programmée tu vois j'en étais là en fait
Ouais, je comprends.
et après au final je me suis dit mais il y a quand même un truc enfin c'est pas normal que j'étais jeune en bonne santé mon bébé était en bonne santé pourquoi? Et du coup, en cherchant pourquoi, eh ben, tu tombes en fait sur des trucs sur la surmédicalisation de l'accouchement. Et après, tu tombes sur des tas de choses sur l'accouchement naturel, sur comment ça doit vraiment se passer, sur ce que c'est, etc. Et là, d'un seul coup, ça a été, enfin, ça a été comme une ouverture, quoi. La douche froide, le truc, c'était, ah, mais merde, mais en fait, c'est pas ma faute, quoi. C'est pas mon corps qui est cassé, c'est pas de ma faute, c'est, enfin, tu vois, c'est. Et voilà. Et donc, au final, je me suis, du coup, j'ai creusé le truc, je me suis informée de fou et tout. Je parle très bien anglais, donc j'ai pas de problème pour m'informer en anglais aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources anglophones, donc c'est un truc de ouf. Et bah, du coup, je me suis informée, 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 informée. Comme une dingue, mais vraiment, j'étais obsédée à un moment donné, si vous comprenez. J'ai fait pas mal de boulot avec des doulas aussi pour comprendre mon accouchement traumatique et où ça a pu déconner, en fait, bon, à partir de la pose de la péridurale, hein, sans surprise. Et en fait, et du coup, après, j'en suis arrivée à la conclusion qu'il fallait que j'accouche chez moi pour un deuxième. Voilà.
Je trouve ça tellement intéressant ce que tu dis et que qu'on entend tout le temps en fait, c'est que ce truc de il m'est arrivé quelque chose d'horrible. Heureusement que j'étais à l'hôpital sans reprendre les éléments en fait et moi enfin j'arrive plus à entendre les discours des anesthésistes et tout qui te disent bah, en fait, c'est plus sécurisant de prendre la péridurale parce que en cas de problème, eh ben, on pourra faire sortir le bébé sans anesthésie générale et tout. Mais en fait, les gars, est-ce qu'on peut parler des probabilités
Est-ce qu'on
et de
peut
la
parler des
probabilité de
problèmes que
oui?
cause la péridurale parce que tu n'es plus mobile en fait? Donc
Mais bien sûr.
finalement.
Et pour eux, c'est pas. Enfin, je sais pas. Pour eux, il y a moins le problème de danger de vie ou de mort. Et donc, du coup, enfin, je. Et en fait, ils n'arrivent pas à comprendre que leur point de vue est leur point de vue biaisé et que on ne peut pas, nous, personnes qui accouchons, on ne peut pas prendre leur point de vue comme le maître étalon, la base de réflexion, quoi. Pas du tout. Mais on est encore 0,x% de la population à comprendre ça et ça me rend folle. Les histoires de Brèche de la Dure Mère, j'en ai eu quelques-unes et.
Ah mais c'est horrible, hein.
Rend
Ça
folle.
c'est quand tu compares la douleur d'une brèche de dure mère à la douleur des contractions, mais t'as 10 bébés quoi. Enfin
Bien sûr.
vraiment. Enfin, si quelqu'un m'avait dit ça, mais of course que j'aurais pas choisi la péridurale, tu vois. Il y a aussi un manque d'infos horrible parce que moi j'ai eu une consultation forcément comme j'étais dans un suivi hyper classique, j'ai eu une consultation avec un anesthésiste à l'hôpital. Le mec m'a jamais parlé de ça. Il m'a examiné le dos, il a regardé la gorge, je sais pas quoi, parce que c'est des histoires d'anesthésie, je sais pas quoi. Et vous voulez la péridurale ou pas? Ah bah oui, peut-être, je suis pas sûre. Ok, au revoir madame, quoi. Enfin, ça a duré 5 minutes en fait.
Bien
Donc, il
sûr.
n'y a pas d'information, enfin, il n'y a rien. Peut-être que dans certains hôpitaux, il y a plus d'infos, mais je suis pas sûre qu'ils le disent. Et moi, l'anesthésiste neurologue qui avait donc été honnête avec moi, il m'avait dit un truc très intéressant, c'est qu'il m'avait dit que les brèches de Durmer, officiellement, c'est 3% des péridurales. Sauf qu'il m'a dit que officieusement, c'est beaucoup plus et c'est énorme parce qu'en fait, il y a des tas de femmes qui ont ce qu'on appelle des petites brèches, c'est-à-dire la Durmer juste un petit peu égratignée, etc. Et il y a des petites gouttes de liquide qui coulent et tout ça. Et en fait, il m'avait dit que et y a souvent des petites brèches comme ça qui se recolmatent sans besoin de blood patch et tout ça. Et il m'a dit que c'est plus de l'ordre de 20%. Le mec m'a dit ça. Ouais, non, c'est énorme. Faut pas croire. Et il y a des femmes qui sont laissées après l'accouchement. On leur dit, vous êtes migraineuse, madame, c'est les hormones, c'est machin. Non, en fait, c'est des femmes qui ont des brèches de dure mère. Moi, je suis sur des groupes Facebook aussi là-dessus. Et en fait, tu as des femmes qui sont laissées après l'accouchement comme ça. Et les nanas, elles ont clairement des symptômes de brèche de dure mère, mais tout le monde s'en fout. C'est vraiment horrible. Donc en fait, il y a pas de les brèches de Durmer sont pas comptées en fait. Il y en a plein qui sont pas répertoriés, comptés et tout ça. Donc officiellement dans les études, c'est 3%, mais c'est des conneries en fait. C'est vraiment des conneries.
C'est vraiment les chiffres qui les arrangent, quoi, comme d'habitude.
Ouais, exactement. Parce que sur l'étude, effectivement, tu as peut-être des anesthésistes aussi super nickel, pointus et tout ça. Enfin, tu sais pas sur quelle
Mais bien
anesthésie
sûr.
tu vas trouver, tu vois.
Bien sûr. Ok,
Voilà.
donc tu fais tes recherches et tu comprends qu'effectivement, ton salut, il sera dans l'accouchement à la maison si tu veux
Exactement.
un deuxième enfant. Et là, tu n'es pas encore décidé sur le fait d'en avoir un deuxième ou là, du coup, si ça te... En fait,
Ça me
tu comprends
travaille
quelque
quand
chose.
même. Déjà, au début, je voulais juste comprendre mon premier accouchement, etc. Et après, je me suis dit non, mais quand même, j'en veux un deuxième, tu vois. Ça, forcément, ça me travaillait un petit peu. Sinon, j'aurais pas cherché autant. Mais ouais. Et du coup, je comprends que il va falloir que je sois à la maison. Après, je vois les problèmes, enfin les difficultés d'avoir une sage-femme à domicile en France. Et puis, en fait, au fur et à mesure de mes recherches, je me rends compte que j'en veux pas forcément une avec moi. C'est
Ouais.
ça aussi, surtout. Et donc ça, c'est aussi une réalisation dure à avaler parce que tu dis, ouais, donc en fait, je vais faire ça en toute autonomie, il faut prendre ta responsabilité, etc. Et ça, c'est pas simple.
On nous éduque pas à ça.
Voilà, on nous éduque pas à ça, on nous éduque toujours à avoir un filet de sécurité et tout. Et en même temps, et donc après, on décide d'avoir un autre bébé, donc je tombe enceinte assez rapidement. Et puis après, voilà, j'ai eu un petit suivi au début et tout ça. Et puis de nouveau, je tombe dans la surmédicalisation parce que
Ah, putain.
Non, mais c'était vraiment parce qu'en fait au début c'était une grossesse gémellaire et j'ai perdu un des jumeaux à 2 mois et demi de grossesse à peu près. Et en fait après du coup vu que c'est ça, ils veulent un peu de surmédicaliser et tout. Mais et en fait j'ai eu un truc très bizarre à la prise de sang, tu sais, pour détecter la trisomie. En fait le taux était très très bas. Et en fait, c'était dû au fait que c'était une grossesse gémellaire à la base, en fait, parce que tu sais, l'ADN de l'autre ju de du jumeau qui n'est plus là est encore dans ton sang, et du coup, ça fausse les résultats. Donc, j'ai eu énormément d'inquiétudes là-dessus et tout ça. Enfin, tu as beaucoup de soignants qui m'appellent, ah, vos prises de sang, gna gna gna, ça va pas et tout ça. Enfin, bon, bref. Du coup, après, à l'écho, j'ai été faire une échographie génétique un peu poussée dans un truc privé que j'ai payé de ma poche, évidemment. Le bébé n'avait aucun problème, évidemment. Donc, j'ai refusé les histoires d'amniosynthèse et tout ça, parce que ça, je voulais pas. Et du coup, non, le bébé n'avait aucun problème. Donc, pour moi, c'était bon, j'accouchais chez moi, parce que, enfin, je voulais m'assurer quand même que le bébé n'avait pas de soucis avant d'accoucher à la maison. Je suis pas folle. S'il avait eu besoin d'assistance à la naissance et tout ça, qu'il était en situation de handicap, j'en sais rien quoi. Enfin, tu vois, j'aurais pas fait ça, ça aurait été différent. Et donc là, je me rends compte que le suivi médical, en fait, m'a fait flipper. Pour absolument rien, parce que moi j'étais convaincue que mon bébé de toute façon allait super bien. Ça, par contre, j'étais convaincue. J'ai eu la confirmation en plus qu'il allait super bien. Et du coup, j'ai fait la deuxième échographie et après j'ai un peu espacé le suivi. Enfin, j'ai fait un petit d'un truc sporadique et j'ai plus trop donné signe de vie, quoi.
OK.
Donc, je me suis mis en confiance, voilà, c'est bon, on y va. Et puis bah au final, et mon mari donc a eu aussi un cheminement parce que c'est pas facile hein, pour un papa de se dire va y avoir un accouchement à la maison sans sage-femme tout ça, c'est chaud quoi, un accouchement libre. Et du coup on a fait pas mal de boulot avec une doula qui nous a quand même, qui nous a quand même, enfin tout le boulot avec la doula nous a donné confiance, nous a motivé, nous a rassuré et tout. Et on avait quand même notre doula pour le jour J. Ça, c'est rare d'avoir des doulas qui accompagnent les enfantements libres, mais c'est vachement bien parce qu'au final, comme on avait un grand aussi, on s'est dit que bon, s'il fallait le gérer et tout ça, au final, la doula était là pour tenir l'espace et tout, mais bon, elle était avec mon mari et puis ils ont fait une équipe de choc, c'était pas mal.
C'est une doula sensibilisée au, du coup, pardon, le.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ouais, bah, c'est plus une birth skipper qu'une doula, quoi. Tu
C'est une
vois.
birth keeper, c'est une doula qui est sensibilisée aux naissances libres.
Voilà. Et du
Ok.
coup, bah, arrive le jour de mon accouchement. Ça fait comme le premier, donc je perds les os avant. Je sais pas, ça doit être mon fonctionnement. Je sais que ça arrive à 10% des femmes, que c'est le fonctionnement de 10% des femmes. Donc moi, j'ai pas les contractions avant. J'ai direct, plouf. Pas du tout pareil que donc le premier. Je fais une sieste, je prends un petit goûter, je suis cool, j'appelle ma doula parce que quand même elle avait 2 heures de route la peau. Du coup, pour qu'elle soit. Puis on se met un film, enfin bon, super zen et tout. Pendant le film, je suis un peu sur mon ballon, ça commence à faire des petites douleurs de règles, bon, rien de très folichon pour l'instant. Et ma doula arrive vers 18h30, et vers 18h30, ça commence à s'installer doucement, quoi. Et puis, du coup, bah, je vais pas mal aux toilettes. Enfin, tu sais, le pré-travail, tu fais un peu ta vie encore. Enfin, le travail qui commence, tu fais un peu ta vie encore sans vraiment. Ouais, sans vraiment avoir trop de problèmes, enfin, de mal à gérer. Et puis après, bah, ouais, je vais aux toilettes plusieurs fois, puis ça s'accélère un peu. Donc, je teste la position à quatre pattes. Là, je me sens super mal. Parce que tu sais, tu vois des vidéos et tu te dis, ah ouais, les meufs, elles se mettent à quatre pattes, donc je vais tester ça. Et là, je te dis, oh, ah ouais, non, 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 non. Pas du tout, pas du tout. Machine arrière, on va tester autrement. Et après, donc, ma doula avait un rebozo, une espèce d'écharpe, donc, qu'elle a nouée au-dessus d'une, et coincée au-dessus d'une porte. Et donc, ça m'a fait, un truc pour tenir et pour me suspendre. Et là, j'ai passé beaucoup de temps du travail, en fait, à me suspendre, à me tenir pendant chaque contraction. Et puis, il y avait mon mari derrière qui était là juste, enfin, pour me soutenir un peu quand c'était un peu trop dur à tirer. Et puis, je me rappelle, enfin, voilà, j'ai le souvenir d'avoir passé un peu de temps quand même. Et après, j'ai le souvenir d'avoir eu mal aux mains, tu vois, de tirer. J'avais finalement plus mal aux mains qu'à mes contractions. Du coup, je me suis arrêtée. J'ai fait, ah non, là, je peux plus. J'ai trop mal aux mains. Et puis, du coup, j'ai de nouveau eu envie d'aller aux toilettes. Donc, il a fallu me véhiculer du salon jusqu'aux toilettes. Et j'ai un flash d'avoir vu un portable sur la table et il était 20h30. Donc, voilà. Et du coup, j'ai été jusqu'aux toilettes. Là, j'ai eu une super grosse contraction dans le couloir de mon appart. Heureusement que là, par contre, ils étaient deux pour me tenir. Parce que je me suis littéralement jetée en arrière en mode ah Jésus-Christ, tu vois. Donc là, ils étaient deux à me rattraper. Donc là, heureusement. Et du coup, donc, je retourne aux toilettes parce qu'évidemment, j'ai envie d'aller aux toilettes. Et finalement, Attends. Désolée parce qu'il joue avec des Legos et ça s'entend trop. Et du coup, je retourne aux toilettes et puis j'y reste. Tu vois, là, je suis bon, là, je suis bien. Je suis dans mon truc, je suis dans ma petite pièce, je suis dans mon petit coin. C'était pas forcément l'endroit où j'avais prévu d'accoucher. En plus, j'avais loué une piscine d'accouchement, tu vois. Donc, voilà. Et du coup, donc sur mes toilettes, là, ça commence à devenir dur, là. Et je voulais tout le temps me mettre en arrière, tu vois. C'est assez intéressant. Parce que pendant toute ma grossesse, j'avais un ventre super en avant. Et j'ai eu l'impression que je voulais tout le temps me mettre en arrière. Parce que le bébé, il fallait qu'il passe derrière, quoi. Enfin, du coup, la à quatre pattes, ça n'allait pas du tout.
Ah
Et
ouais.
ça, c'est un truc que je me suis dit après coup, qui c'est sûrement à voir avec la position du bébé. Et du coup, là, à un moment donné, j'y arrive plus, je sais plus quoi faire, c'est horrible, j'arrive plus à me mettre bien. Je regarde ma doula et je lui dis, non, mais j'ai trop mal. Et elle me dit juste, elle me dit, je sais. Et là, cette phrase d'une femme qui savait, ça m'a vraiment reboostée. Enfin, elle voulait pas me sauver, elle pouvait rien faire, mais elle savait juste que bah, c'était dur, quoi. Et voilà. Et du coup, je dis à mon mari, parce que je savais pas, tu vois, je dis à mon mari, va préparer la piscine parce que je sais plus comment faire et tout. Du coup, le pauvre, il est sorti en catastrophe. Et là, peut-être 2 minutes après, il est parti. Enfin, il a mis genre le liner dans la piscine, bref. Et 2 minutes après, je le rappelle parce que je lui dis, ah non, mais reviens parce que je suis en train de pousser.
Bah oui, c'est ça.
Et là, voilà. Donc, en fait, j'avais pas du tout réalisé que j'étais à la fin du truc. Donc, là, par contre, le réflexe de pousser a été incroyable. Ma doula avait prévu le truc, elle avait mis des serviettes, tu sais, partout dans mon sol de toilette, parce que voilà, les doulas, elles savent quand même quand ça va arriver. Et du coup, j'ai juste eu le temps en fait, de me lever des toilettes, tu vois, par réflexe, et de m'accroupir par terre. Et en fait, le bébé, il a été éjecté sur les serviettes, donc en mode bouchon de champagne, mais vraiment. Et je revois mon mari qui est devant moi et qui me dit. Il me dit, je vois la tête et je plouf! Genre, 10 secondes après, le bébé était dehors, quoi. Il n'a pas eu le temps de dire, ah merde, il est dehors. Ouais. Il m'a dit, j'ai pas du tout eu le cercle de feu, le machin et tout. Non, parce que mon mari, il a vraiment dit, je vois la tête. Et 10 secondes après, il était tout dehors. Donc, en fait, ça l'a éjecté complètement. Du coup, j'ai mis un petit moment à atterrir. Et évidemment, après, je l'ai ramassé, tout ça. Enfin, c'était incroyable. Et là, je me suis rendu compte de ce que ça devait être la naissance, parce que oh, c'est euphorique, c'est incroyable quand tu te dis, oh, je l'ai fait, c'est waouh. Ouais, après, c'était mon petit bébé. Là, j'ai plus de notion du temps. Je le regardais. Voilà, puis on a vu que c'était un garçon aussi, un deuxième garçon. Donc, ça, parce qu'on avait gardé surprise. Et puis, 10 minutes après, mon grand qui était dans sa chambre en train de regarder des dessins animés sur l'iPad. Enfin, les enfants, ça les perturbe pas du tout, hein, la naissance. C'est pas un truc qui les perturbe. Il voulait pas être dans la pièce, mais ça l'a pas perturbé plus que ça. Il est venu rencontrer son petit frère, donc ça aussi c'était magique. Enfin, c'était et puis lui aussi, il savait pas que c'était un garçon, qui était super content. Enfin bon, voilà, lui il voulait un petit frère, c'est vraiment tout ce qu'il voulait. Et à ce moment-là, t'as l'impression que la naissance du grand a été un peu guérie par ça, parce que finalement c'est incroyable de voir cette rencontre-là. Puis après, donc, je suis allée quand même m'allonger sur mon lit parce que, assise dans les toilettes sur des serviettes, bon, c'est gentil, mais j'avais besoin d'être allongée. Mais quand j'étais allongée, j'étais pas très bien et tout. Puis je sentais qu'il y avait le placenta qui voulait quand même sortir de là. Et donc après, enfin, ma doula, elle a mis une bassine au pied de mon lit. Et puis je me suis accroupie au-dessus de la bassine et le placenta, plouf, a glissé dedans comme ça, sans problème. Je pense peut-être quand même 1 heure, 1 heure et demie après, parce que c'était long, hein, quand j'étais avec bébé et tout. Donc, enfin, ça n'a pas posé de problème en tout cas. Et puis, j'ai enfin pu me reposer avec bébé. Et puis, peu après, on a coupé le cordon, ce qui était assez court. Donc, ça me gênait. Enfin, il était blanc depuis longtemps. Mais ça me gênait dans les mouvements. Enfin, je ne pouvais pas bien déplacer
Bah
bébé. Ça
oui.
me gênait même pour le mettre au sein et tout, parce qu'un cordon court, c'est pas facile. Du coup, tu as une bassine de placenta à côté, puis tu es juste là avec ta bassine. C'était pas terrible. De toute façon, j'ai jamais voulu trop faire un placenta lotus. C'était pas trop mon truc. Mais bon, là, ça aurait été compliqué quand même. Avec un cordon court, c'est compliqué.
Ah ouais, c'est une
Voilà.
logistique.
Ouais, la logistique, là, avec un cordon trop court comme ça, là, c'est vraiment compliqué. C'était pas. Voilà. Et puis, du coup, mon bébé est bien arrivé tête en bas parce que il était aussi. Il faisait l'horloge entre transverse et siège quand même tout le 9e mois. Donc, j'avais choisi également de lui faire confiance là-dessus. Et je pense qu'il s'est tourné pendant le travail. J'ai vraiment une intuition pour ça parce que. Effectivement, moi, voilà, je sentais sa tête bien en haut ou sa tête bien sur le côté, tu sais, comme ça, en banane, quoi. Donc,
T'étais sûre?
ouais.
Ok. Parce
Ouais.
que moi, j'ai longtemps cru pour ma première qu'elle était en transverse tout le temps. Et en fait, c'est juste que j'avais des contractions de Braxton tout le temps
Ouais.
qui donnaient à mon utérus une forme hyper chelou. Et en fait, même les sages-femmes que j'allais voir me disaient, oh, mais votre bébé, il est en transverse. Ah, mais
Ah non, mais moi,
c'est.
j'ai
Non,
jamais
ça
eu
va
de
être problématique.
contraction avant.
Ouais.
J'ai quasiment pas de contraction. Et donc, mon ventre était tout le temps super mou. Donc, c'était assez facile. Bon, il avait beaucoup de liquide parce que je pense que le corps avait enregistré le fait que ce soit peut-être des jumeaux et donc produisait beaucoup de liquide. D'ailleurs, à la deuxième écho, il m'a dit, oui, vous allez avoir un hydramnios. Il faudra vérifier ça. Gna, 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 voilà. Gna. Donc, ça, c'est aussi pour ça que j'ai dit non, stop, c'est bon.
Vous m'avez saoulé.
Ouais, non, et puis je sentais quand même où étaient ses pieds et tout ça. Enfin bon, il
OK.
était dans des positions bizarres. Mais en même temps, comme il avait beaucoup de liquide, il bougeait aussi.
Ouais.
Donc je savais qu'il avait de la place pour bouger. Du coup, je me suis dit, bon, bah, il va. Bon, j'ai eu très peur, mais il va. Enfin, j'ai eu peur tout le temps, mais il va se placer. Ça, c'est aussi intéressant qu'on peut enfanter chez soi en ayant peur, quoi.
Bien
Parce
sûr.
que. Ouais, on peut. Parce que bon, moi, après, c'est des peurs irrationnelles, parce que quand t'approches de la naissance, tu te dis toujours si tout le monde meurt, si
Bien sûr.
c'est horrible, etc. Enfin bref. Voilà. Mais bon, moi, j'ai jamais été fermée au fait d'aller à l'hôpital si jamais il y avait un problème non plus, quoi. Donc, je sais pas, c'est pas
Ouais.
le
Et
délire.
après, sur le sujet de la peur, enfin, je pense qu'il faut démystifier le truc. Enfin, on a toujours peur. On peut, enfin, tu peux pas ne pas avoir peur, c'est normal. Après, je pense qu'il faut travailler sur les peurs. Bon, et après, il faut. Enfin, moi, j'ai travaillé sur mes peurs de l'hémorragie du postpartum, notamment. Voilà. Et parfois, tes peurs, et bah, tu les gardes, et elles restent très fortes, et c'est OK, parce que bah oui, tu vas donner la vie, et on ne sait pas ce qui peut se passer. Et il peut se passer 1 milliard de choses, que tu sois chez toi, que tu sois à l'hôpital, et la peur, elle fait partie du truc, et tu
Ah, mais ça, on
vois.
te le dit pas
C'est
assez
un
parce
truc.
que pour le premier, moi, j'avais aucune peur, quoi. Je me suis dit, ah non, trop cool. Enfin, et en fait, je suis tombée de haut quand même. Mais ouais.
Et comment ça s'est passé du coup après pour la déclaration de naissance? Parce que c'est beaucoup la question quand on enfante
Oui.
librement.
Ben, c'est pour ça que j'ai écrit un guide là-dessus en plus.
OK.
Moi, c'était un peu ma grande trouille, mais donc je me suis beaucoup informée là-dessus. Et j'ai écrit un guide administratif pour enfanter librement en France. Juste sur les
Bien.
histoires administratives, ça peut aider, ça peut aider des mamans. D'ailleurs, ça a beaucoup plu parce qu'il y a pas mal de mamans qui l'ont téléchargé, donc ça c'est chouette. Et du coup, en fait, non, ça s'est pas bien passé parce que ils sont cons, quoi. Donc,
Ah ouais.
ils font un peu du zèle.
Ouais.
Bon, ils nous ont dit qu'on avait pu voler un bébé. Non, non, ils nous ont dit qu'on voulait déclarer une fausse naissance pour la CAF. Apparemment, ils avaient déjà eu le cas, je sais pas. Bref, non, il doit y avoir des gens qui font ça quand même, hein, donc il y a quand même des tordus hein, dans la vie. Hein.
Ah oui, mais bon.
Donc bref, donc du coup après ce qui nous a sauvés, c'est qu'en fait donc, mon fils était en classe avec un garçon dont la maman était sage-femme.
OK.
Donc en fait, ne voulant pas du tout aller à l'hôpital, j'ai appelé cette dame, voyant que la mairie nous faisait quand même suer, quoi. Et elle a très gentiment accepté de venir, déjà examiner bébé, elle était super douce, super gentille, etc. M'examiner moi, ça m'a rassurée aussi, parce que
Ouais.
voilà, parce que j'avais une déchirure quand même, donc je voulais quand même avoir son avis, c'était quand même assez intéressant.
OK.
J'avais une déchirure au deuxième degré que je n'ai pas fait recoudre par choix, mais elle m'a dit non, mais là, c'est pas genre un gros truc horrible, ça va quoi.
Trop bien. Hyper intéressant.
Ouais. Et du coup, et après, elle a bien voulu faire un papier qui n'est pas donc un certificat d'accouchement. Attention, c'est bien un certificat d'examen de la mère et du bébé. Et elle a écrit sur le certificat que son examen confirmait nos dires à nous, qu'il était bien né tel jour, telle heure, etc. Donc en fait, ce que les soignants ne savent pas, c'est qu'ils peuvent faire un certificat d'examen simplement. Et pour la mairie, ça suffit en fait. À partir du moment où on a eu ça, il n'y a eu plus aucun problème en fait.
OK.
C'est je certifie avoir examiné telle maman tel jour avec tel bébé et je confirme que les dires des parents sont exacts, c'est-à-dire qu'il est né à tel jour, à telle heure. Enfin voilà, c'est tout.
Et ouf, parce que elle te fait juste confiance. Enfin, en fait, c'est juste une personne du système médical qui choisit de te faire confiance. Et donc, le système administratif est OK pour faire confiance à cette personne-là.
Oui.
Sans te faire confiance à toi directement. Enfin, c'est vraiment
Oui.
infantilisant
En même temps, voilà, elle est sage-femme, elle a vu le placenta, tout ça. Je veux dire, elle est pas débile, hein. Le bébé était né hier, quoi.
Ouais, mais bon, même
Oui, c'est vrai. Non, mais en
tu
soi.
pouvais aller. Si t'avais été avec le placenta à la mairie, je sais pas si ça aurait changé quelque chose, s'ils avaient envie d'être cons.
Ah non, mais nous, on aura dit. Mon mari leur a dit, mais on peut venir avec le bébé. Ah non, mais vous pouvez prendre un bébé n'importe où. Ok. Donc non, parfois ils ont choisi. Et nous, voilà, moi j'avais contacté une avocate, tout ça, je connaissais mes droits et tout. Mais franchement, après une naissance, t'as pas for si t'as une
Non.
autre solution, t'as pas forcément envie de te battre avec eux. Et c'est ce que j'explique aussi dans mon guide administratif. J'explique aussi que ça dépend des situations, parce qu'on va pas se mentir, en France, il y a encore des délits de faciès. Hein, t'as l'air
Bien
trop
sûr.
jeune, t'as l'air trop étranger, t'as l'air trop comme ci,
Bien
comme
sûr.
ça. Tu vas avoir des problèmes, quoi. Donc en fait. Et c'est ça que j'explique aussi dans mon guide, c'est qu'il faut vraiment jauger de si tu veux te battre ou pas, quoi. Enfin,
Délit de
vraiment.
faciès, on peut même dire racisme. Hein.
Ah bah oui, bah complètement.
La France est un pays raciste. Faut
Ah oui.
pas se
Racisme,
mentir.
tu sais, il y a eu des gens qui ont eu des problèmes avec des enfants qui ont été enlevés après un enfantement libre, mais ils étaient
Ouais.
très très jeunes aussi. Donc eux,
Ouais.
je pense pas que c'était du racisme, mais c'était plutôt ils sont
Agisme.
jeunes, ils font n'importe quoi. Ouais, voilà, c'est
Ouais.
ça. Exactement. Donc.
J'avais entendu aussi qu'un truc qui était pas mal, c'était de faire une déclaration de naissance anticipée.
Ouais, mais alors quand t'es marié, enfin, ça va pas. C'est bien quand t'es pas marié, mais quand t'es marié, tu peux
Bon.
pas le faire.
Ah d'accord.
En fait, c'est un papier qui. Parce que quand t'es marié, ton enfant est forcément enfin, le père de ton enfant est forcément ton mari, en fait. C'est automatique. Même si c'est pas le
Ouais. Oui,
cas.
mais Parce que enfin, ça fait un papier en plus à montrer une fois que le bébé est né pour dire, bah, regardez, j'ai fait ça, j'étais
Oui, mais
enceinte.
en fait, effectivement, je me suis renseignée auprès de la mairie et quand tu es mariée, tu peux pas le faire.
D'accord.
C'est un papier qui est réservé aux couples non mariés pour en fait que le père
D'accord.
confirme que c'est bien. Parce qu'en fait, ils m'ont expliqué que effectivement, tu. Enfin, lorsque tu es mariée, c'est par défaut ton mari qui est marqué comme le père du bébé. Sauf s'il y a un autre mec qui sort du bois en mode non, c'est moi.
Et on peut le trouver où ton guide?
Sur mon lien en bio de mon Instagram.
Tu me donneras le lien, je le mettrai dans le
Appuyez en
descriptif de
liberté, ouais.
l'épisode.
Ça marche.
Et parce que tous ces trucs-là, enfin, est-ce qu'on peut pas, par exemple, pouvoir montrer des échographies avec ton nom et dire, mais regardez, en fait, j'étais enceinte il y a 4 mois. Tu vois,
Ils
si tu
peuvent,
avais
s'ils
l'échographie du
sont
deuxième trimestre.
avis d'être couillons, ils peuvent dire, ah mais vous avez perdu le bébé, gna, et machin. Nous, ils nous ont parlé aussi, ils nous ont parlé de ça à demi-mot, et en faisant mes recherches, et j'en parle dans le guide aussi, ils ont parlé des histoires de mères porteuses qui étaient quand même qui est interdit en France. Et il y a eu des gens qui ont ramené des bébés des Pays-Bas, etc. Et qui ont essayé de faire passer ça pour une naissance inopinée à la maison, tu vois. Donc il y a quand même on va pas se mentir, dans le monde dans lequel on vit, c'est plus comme à l'époque de Napoléon qui avait écrit cette loi. Il y a quand même des problématiques qui peuvent poser quand même question, quoi. C'est vrai, t'as un bébé d'une mère porteuse en Hollande et que tu le ramènes parce que c'est quand même qu'à 4 heures de route de chez nous. Hein. Moi, je suis dans les Hauts-de-France, donc. Et que tu dis qu'il est né dans tel bled à trifouiller les oies de telle mère, enfin, tu vois, s'il n'y a pas de professionnel médical, il y a quand même un truc qui peut être. Enfin, c'est quand même la porte ouverte à un truc. Voilà. Malheureusement, et bon, heureusement, l'Europe, oui, la libre circulation et tout, mais malheureusement, il y a des lois différentes dans d'autres pays et ben, ça peut être préjudiciable sur ce truc-là. Donc, moi, je suis pas fermée. Je comprends quand même les besoins de prouver de nos jours, parce que c'est vrai déjà, il y a tellement de tordus, et puis il y a tellement de situations bizarres qui peuvent survenir aussi que je pense que les professionnels de mairie essayent aussi de se protéger, ce que je comprends, hein. Moi, j'ai été fonctionnaire, c'est vrai que c'est pas toujours facile de se protéger.
Ouais. Oui, mais je pense que de toute façon, la problématique, elle est ailleurs. Elle est déjà dans le fait que les gens n'accouchent pas chez eux. Et que du
Déjà,
coup,
oui.
quand toi, t'accouches chez toi, bah, t'es forcément chelou.
Voilà, de base.
Déjà, il y a ça. Et puis après, oui,
Et nous, ils n'étaient pas du tout dans le
la
trip,
vue.
on va vous signaler, machin. Pas du tout. C'était pas du tout ce trip-là. C'était plutôt, est-ce que c'est vrai, quoi? C'était
Ah.
plutôt, on ne croit pas, quoi. C'était plutôt ce trip-là. On n'a pas du tout été emmerdés avec ça, en mode c'est dangereux. Non, ils n'en avaient rien à foutre, clairement. Mais c'était en mode, ah, vous essayez de nous douiller, quoi. C'était un peu.
Non, mais c'est ça. Si tu dis que t'as accouché chez toi, t'es forcément quelqu'un de bizarre.
Voilà. Essaye de
Quelle que soit
douiller
ta
ou c'est chez
motivation.
vous. Ouais.
Donc oui, donc en fait, c'est quoi la clé? C'est de. Parce que sinon, un truc que je me disais aussi qui pouvait être pas mal, c'est de bah, simplement d'aller voir un pédiatre, tu sais, dans
Oui.
les 8 jours, montrer ton bébé, le pédiatre a
Alors en fait,
priori.
et c'est pour ça que j'ai écrit un guide dessus parce que c'est long, la clé est très personnelle.
Oui, c'est ça dépend de
Il faut
ton.
la décider en amont, et il faut avoir un plan, une stratégie en amont et même un plan B si il y a, tu vois. Et c'est ça que j'explique dans mon guide et j'explique un peu toutes les stratégies que tu peux avoir pour pas être emmerdé, quoi. Parce que tu
Ouais.
n'as pas envie d'être embêté après la naissance, vraiment pas, quoi, t'as pas
Ah,
envie.
c'est clair.
Mais
Ah
c'est
bah
vrai,
écoute.
personnel. Parce que
Écoute,
ça
je
dépend de
vais.
ce que tu trouves, ça dépend de ta mairie, ça dépend des professionnels de santé autour de toi, ça dépend de l'hôpital. Enfin, tu vois, il y a
Bien
tellement de
sûr.
facteurs que bah, j'en ai écrit un truc. Parce que... Et puis j'ai tellement entendu d'histoires aussi et parlé à plein de mamans pour avoir leurs histoires que c'est vachement intéressant aussi. Hein.
Bien sûr, ouais, c'est clair.
Y a pas une histoire qui se ressemble.
Non.
C'est ça
Ouais.
qui est dans ces histoires-là.
Ouais, trop bien. Bah écoute, ouais, ton guide, je vais le mettre en lien parce que souvent, enfin, c'est une question qui revient énormément.
Ah ouais.
Toujours, oui, mais. Moi, ce qui me fait peur, si j'accouche chez moi, c'est comment je fais pour déclarer le bébé et tout. J'ai entendu des histoires, on a retiré des bébés à des familles.
Ah mais il y en a plein, mais qui entendent des histoires. Après, il faut que les gens se rassurent, il y a beaucoup plus d'histoires qui se terminent très bien et qui sont
Mais bien
très
sûr.
Même avec des gens qui ont eu des félicitations de la mairie et tout ça. Ah, on n'a jamais eu de bébé dans le village, c'est trop cool et tout. Que l'histoire malheureuse où ça se fait super mal.
C'est juste qu'on en entend plus parler parce que c'est plus relié, parce que c'est dramatique. Et voilà. Mais le pourcentage de chance pour que ça se passe mal, il est quand même petit.
Voilà. Bon, après, tu n'as pas forcément envie d'avoir non plus un signalement sur le dos, même si tu prouves que tout va bien. Enfin, tu n'as pas non plus envie d'avoir ça en postpartum non plus, quoi.
Non.
C'est pas le but.
Non, mais enfin, moi, je trouve que tu peux pas partir du principe que du coup, tu le fais pas parce que tu veux pas avoir de signalement. Enfin, à un moment donné.
Exactement. À un moment donné, il faut être droit aussi. Il faut être
Ah
dans ce
là,
que tu veux.
c'est pas possible, quoi. Et encore une fois, c'est très politique. Si tu le fais, c'est. Oui, c'est pour toi, mais enfin, que tu le veuilles ou non, c'est aussi pour faire avancer les mentalités, quoi.
Ça. Mais c'est vrai qu'après la naissance, il faut quand même, faut quand même se dire que on n'a pas envie de se battre, donc c'est quand même cool d'avoir un plan
Ça, c'est clair.
avant.
Ouais.
Et un
Ouais.
plan B si jamais le plan A
Ouais.
foire.
Ouais, c'est hyper bien. Il faut le préparer.
Voilà, faut le préparer. Et dans mon guide, je parle aussi de quoi dire aux soignants, etc. Enfin, faut pas dire n'importe quoi, tu vois, parce qu'il y a
Ouais.
beaucoup de signalements qui viennent de soignants, en fait. Et donc. Il faut choisir ses mots, il ne faut pas dire n'importe quoi, c'est important.
Trop bien. Bah, tu vas m'envoyer le lien parce que je pense que c'est un guide important.
Merci, ouais, je t'envoie.
On arrive à la fin de notre conversation de génie. Est-ce qu'il y a un sujet que j'ai pas abordé ou une question que je t'ai pas posée que tu voudrais discuter un peu avant qu'on se quitte?
Je crois que non, bah, moi enfin, par contre, ce que je voudrais, c'est vraiment encourager les mamans. À faire ce qu'elles ont envie, enfin, à suivre leur instinct parce que c'est hyper important. Je pense que si tu suis pas ton instinct et que ça se et que au final ça se passe mal, et ben tu vas toujours t'en vouloir et c'est horrible. Et j'ai quand même un ah si j'ai quand même un truc à dire super important sur les papas et leur rôle là-dedans. Alors oui, les papas n'accouchent pas, etc. Mais ça reste quand même un truc hyper important en couple. Donc, ce qui est hyper important, les papas, s'il y en a qui nous écoutent, maman-bébé, c'est une dyade non séparable. Donc, en fait, votre femme, elle sait exactement ce qui est bien pour votre bébé. Et le premier truc dans enfin, la première action qui va compter dans votre paternité, c'est de lui faire cette confiance-là, en fait. Donc, les papas. Travaillez sur vos peurs. Vous avez peut-être aussi des représentations super erronées de la naissance parce que bah, vous aussi, vous avez eu une naissance voilà, qui n'était pas forcément idéale. Et vous avez peut-être vu des films, entendu des trucs horribles, etc. Mais votre femme, elle sait. Donc la confiance, je trouve que c'est. Enfin, choisir en tant que papa cette confiance-là, comme mon mari l'a choisi, c'est incroyable et c'est hyper primordial et ça renforce le couple aussi. Tout en sachant évidemment que voilà, il n'y a jamais de solution à 100% sécurisée. La naissance, c'est aussi sûr que la vie, quoi. Donc, au final, vraiment, ouais, choisir ça et soyez pas fermés, quoi. Les papas, vous êtes un composant incroyable et indispensable pour la naissance et surtout la naissance libre. Et ça renforce énormément le couple d'avoir une naissance comme ça. Nous, c'est incroyable. Ça renforce le couple. On te parle toujours de sexualité post-accouchement horrible et tout ça, mais non, une fois que tu as eu une naissance. Enfin, moi, il y avait un jour et une nuit entre bah, le post-accouchement après, quand j'avais une naissance traumatique, etc. Et après, la vie de couple, l'intimité et tout ça, après une naissance libre, c'est incroyable. Donc, les papas, go! Et c'est super important aussi d'en parler aux petits garçons, hein, parce que moi j'ai des fils et du coup bah, mon grand-fils il a vu son petit frère naître à la maison. Donc ça c'est vraiment la nouvelle génération des papas et des hommes. C'est là, eux c'est primordial, c'est eux aussi. Les filles évidemment c'est primordial, on n'en parle même pas, mais les garçons, faut vraiment dire que ça va passer par eux aussi quoi.
Ouais, c'est clair, c'est hyper
Ouais.
important.
Parce que si tu as un mari qui te donne confiance, qui te dit non, mais tu peux le faire, t'inquiète pas, ton corps est fait pour ça et tout ça, mais ça change tout en fait. Je suis trop contente.
Arrêtez de nous mettre des bâtons dans les roues.
Ouais, de fou. Non, mais c'est surtout qu'ils sont vraiment
Soutenez-nous.
un composant essentiel parce que, comme je te dis, si tu as ton mari ou ton conjoint qui te dit non, mais c'est trop cool, t'inquiète, tu vas le faire, c'est trop bien, mais ça va être trop cool et tout. Enfin là, ça te. Ouais, ça te.
Ça te remplit d'ocytocine et tu le fais.
Complètement, mais complètement.
Ouais, c'est clair. Hyper bien. Bah, merci beaucoup, Jenny.
De rien.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.